Jeudi 25 janvier, le comité départemental de la Loire de l'UFCV et les Francas de la Loire organisaient à la passerelle de Saint-Just-en-Rambert la première édition des Moments Clés, une journée départementale autour du handicap et de l'accueil de loisirs pour agir ensemble pour des accueils plus inclusifs. Radio Ondaine, partenaire de cet événement, vous propose cette semaine une série d'émissions pour retrouver les moments forts de cette journée. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter un reportage avec les acteurs de cette journée, le grand témoin de celle-ci, Jean-François Chaussy, ancien député de la Loire et notamment auteur de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, loi sur le handicap du 11 février 2005. Vous entendrez aussi Cyril Hortala, directeur du comité UFCV de la Loire. Au programme, une table ronde avec des acteurs de terrain du département pour des partages d'expériences. Mais pour débuter, c'est Majda Amartib, directrice de la Fédération des Francas de la Loire, qui nous explique les raisons de l'organisation de cette première édition des Moments Clés.
Alors, ce premier colloque aujourd'hui permet de faire réseau avec tous les acteurs de terrain, les acteurs d'éducation populaire, les directeurs de centres de loisirs, les animateurs qui sont toujours au plus proche des enfants et des jeunes au quotidien. On partage une préoccupation commune, à savoir des accueils plus inclusifs et toujours de qualité. Et cela passe par la formation de ces professionnels tout au long de leur cursus. Et les Francas de la Loire ont un objectif premier à travers les actions que nous coordonnons sur les territoires, l'accueil de tous les enfants et de tous les jeunes dans les meilleures conditions possibles et pour des accueils toujours plus inclusifs et sans distinction aucune. Sans distinction aucune, enfants en situation de handicap, voilà le thème de cette journée départementale qui regroupe plusieurs acteurs de l'éducation populaire, mais aussi des élus, des techniciens, CAF, départements, institutions qui nous soutiennent et bien évidemment l'État, le SDJES au quotidien sur le terrain. L'objectif du pôle ressources handicap est d'outiller et de former les acteurs de terrain afin de leur permettre d'accueillir ces enfants dans des conditions optimales. Les territoires ne se ressemblent pas, les enfants et les publics non plus, les familles ont des besoins différents et la mission de nos trois coordinatrices est de s'adapter aux besoins et d'y répondre de manière calibrée aux attentes. On est sur de l'accueil et de la prise en charge individualisée. Et c'est une chose vertueuse pour ces enfants.
Toutes ces structures-là se demandent comment on accueille tous les enfants sans distinction, comment on fait pour proposer du loisir, parce que c'est du loisir principalement. Et vous venez d'expliquer qu'effectivement, on essaye de structurer, on essaye de mettre en place des objectifs communs. Mais on s'aperçoit, et que c'est l'objet de cette journée-là, que des difficultés se font rencontrer d'ordre humain, matériel, etc. Comment on y répond ?
Alors on y répond bien évidemment en prenant le temps de comprendre les choses. Le temps est aussi une des clés de réussite. On écoute, on reçoit les familles, les acteurs, à savoir les directeurs de centres de loisirs, les animateurs, pour co-construire un projet d'accueil le plus adapté possible. Ce projet d'accueil passe peut-être par l'aménagement de l'espace, peut-être par la formation des équipes encadrantes, mais aussi par des toutes petites choses très simples à mettre en place au quotidien afin de rendre efficace et efficient cet accompagnement. On passe également par l'expérimentation. Elle est multiple, il est difficile de répondre à cette question. Comme je vous le disais précédemment, autant il y a de sollicitations du terrain, autant il y a des espaces d'expérimentation. Alors bien évidemment cadrés, puisque l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'accueillir dans les meilleures conditions. Ces conditions se co-construisent, nous n'avons pas toujours donc les réponses, et c'est pour ça d'ailleurs que cette journée s'intitule « Les moments clés. Les moments clés, eh bien, c'est trouver les clés pour que ces moments soient à la fois de qualité et de ne jamais mettre ni les acteurs, ni les professionnels, ni les élus, mais surtout, et j'insiste là-dessus, l'enfant dans des conditions d'accueil, puisque cet accueil est obligatoire dans les structures, eh bien, ce n'est pas parce qu'il est obligatoire qu'on le fait de manière anarchique et non réfléchie. Cette expérimentation, une fois qu'il y a un protocole, entre guillemets, imaginé par tous, et pour tous, puisqu'il s'agit et de l'enfant, mais aussi pour toute l'équipe encadrante, et également la famille, eh bien, on essaye pendant quelques semaines, quelques mois, et on réinterroge nos pratiques. Cette journée a vocation de mettre en évidence toutes les pratiques vertueuses qui sont conduites à l'échelle départementale, sur les différents centres de loisirs, auprès des familles, et pour que les uns et les autres se nourrissent des expériences vécues avec un retour et que d'autres puissent s'en saisir pour s'alimenter et créer un partenariat au-delà du partenariat financier et avec les partenaires institutionnels.
Alors, cette journée a été découpée en plusieurs temps et notamment un premier temps de conférence plénière où vous avez fait intervenir Julia Boivin, Jennifer Fournier. Pourquoi avoir choisi ces deux personnes? En fait, qu'est-ce que ça apporte au public qui était présent, professionnel?
Le public, pour avoir un peu échangé, fait un espèce de micro-trottoir avec eux pendant les temps... en off, ont déjà précisé l'envie, la mise en appétit de la rencontre de ces intervenantes. Parce que ils ont tout de suite eu le sentiment qu'elles s'adressaient directement à eux, que ce qui était dit, ce qui était partagé, était des préoccupations communes. Ces préoccupations communes, eh bien, il y a déjà une forme de frustration, puisque les intervenantes avaient une commande pour pouvoir rentrer dans les délais de la journée et puis pouvoir conduire tout le programme qui a été préparé pour ce colloque. Et ce n'est qu'un premier point d'étape, cette journée du 25 janvier. Cette journée laisse entrevoir de belles rencontres où elles seront à nouveau invitées pour pouvoir avoir une expertise plus fine, un va-et-vient entre acteurs et intervenants et avoir un regard plus précis, plus fin sur des thématiques choisies en amont. L'objectif était de mettre en appétit. Il me semble que à cette heure où je vous parle, ça a été réalisé.
Alors, si l'on parle du public professionnel aujourd'hui, qui représentait les structures d'accueil, les centres d'animation et de loisirs, qui sont affiliés soit à la Franca 42 ou au comité UFCV, aujourd'hui, on imagine aussi la place des enfants en situation de handicap. Comment on conclut cette journée? Comment on imagine l'avancée dans l'accueil après une journée telle que celle-ci pour les premiers concernés?
Alors, on l'a conclu en se donnant un prochain rendez-vous. C'est là la belle initiative et c'est là un des objectifs principaux de cette journée. En se donnant un prochain rendez-vous, et bien évidemment, j'ai pour espoir fortement qu'au prochain rendez-vous, les enfants seront aussi présents sur les tables rondes de cette journée que les adultes et les partenaires institutionnels.
Parce que par exemple, là, actuellement, je suis animatrice dans un centre et dans mon groupe, il y a peut-être 4 enfants qui ont des pathologies. Oui. J'arrive à le gérer parce que j'ai fait une formation handicap, donc j'ai des connaissances et au fil du temps, j'apprends à gérer les comportements des enfants. Quoi.
L'expérience, voilà. En fait, renforce les
pratiques. Exactement. Enfin, c'est vrai que Sylvie, pour moi, c'est le début. C'est pas...
C'est un commencement.
Ouais. Voilà, c'est...
Moi, ça, je vais un peu dans votre sens, par rapport, je dirais, le côté maturité.
Ouais.
Je rencontre quand même pas mal de structures du coup qui ont des projets autour de l'inclusion, voilà. Et en fait, derrière, alors du coup, qui utilisent le service civique, dispositif d'engagement plutôt citoyen, mais du coup, c'est, en fait, quelque part, il y a quand même un niveau de compétence attendue ou de responsabilité liée. Alors, c'est pas une fiche de poste, parce que c'est censé pas être une fiche de poste, mais il y a quand même un niveau de compétence attendue qui est quand même assez élevé. Et ben, effectivement, normalement, un service civique, même si on peut peut-être faire des formations continues, en fait, voilà, j'ai l'impression que ça ne matche pas trop entre ce que devrait être le service civique et le niveau de compétence à tomber.
Tout à fait.
Sur donc, c'est pour ça que je suis
d'accord.
Entre les deux, je suis bien d'accord avec vous.
Les moments clés, donc c'est la première édition de cette journée, donc journée départementale handicap et accueil de loisirs. Agir ensemble pour des accueils plus inclusifs, quelques clés pour réussir. Et donc ces clés-là, c'est peut-être des expériences et des exemples de pratiques locales. C'est un peu l'objet de cette discussion qu'on va avoir avec différentes structures disséminées sur le département. Et nous allons faire un focus sur des actions, alors des exemples de pratiques à venir. C'est les relations avec les parents d'enfants porteurs de handicap, un collectif de parents qui se réunit avec le centre social Christine Brossier, c'est à Surville-Comtal, donc ce sera Laetitia Charrier, référente du pôle adulte-famille, qui nous en parlera. On va évoquer aussi les moyens, les objets, mais c'est également les moyens humains que l'on peut mettre en place avec ces initiatives qui peuvent être un peu freinées, qui peuvent avoir des limites par ces moyens humains, ces mises à disposition, ces moyens financiers aussi. Et ça, on en parlera avec Audrey Grébaba, coordinatrice jeunesse et développement durable de l'association Parc de Montaud à Saint-Étienne, et Arnaud de Clérieux, référent jeunesse au centre social La Livate de Roanne. Et on va débuter avec Jeanne Texier, qui est coordinatrice du centre social Val-Benoît et qui va nous parler d'une expérience 25 ans, je crois, de cette expérience-là où à un moment donné, vous êtes dit, on va donner notre espace, accueillir des adolescents porteurs de handicap et les accueillir dans notre espace commun, l'espace qui est réfléchi pour tous. Alors cette action-là, il y a 25 ans, pourquoi elle est née ?
Bonjour. Cet accueil de loisirs, il est né parce qu'en fait, on a accueilli. Enfin, il y a une jeune qui voulait intégrer un accueil jeune au centre social de la Rivière. Et en fait, ça n'a pas été possible parce qu'elle trouvait pas sa place dans cet accueil. Et donc, ma directrice d'aujourd'hui a pris en charge cette idée-là et s'est dit que, avec tout un collectif, et s'est dit que ça serait peut-être intéressant de proposer un accueil spécifique au sein du centre social pour pouvoir accueillir ces jeunes avec leurs spécificités, avec leur rythme, avec leurs envies, leurs besoins. Et voilà, ça fait à peu près 25 ans qu'on existe et qu'on propose cet accueil de loisirs à des jeunes de 12 à 18 ans, voilà, sur du loisir, samedi et vacances scolaires.
Alors, il a fallu donc réfléchir à cet accueil-là, parce que finalement, il fallait aussi se dire qui va s'en charger, comment on s'en charge, quelles sont nos capacités aussi que l'on a à cet instant T. Comment ça s'est construit en termes d'accompagnement, entre guillemets, en termes de professionnel qui s'est investi dans cet accueil-là ?
Alors, on est vraiment sur un accueil de loisirs. Donc le groupe est encadré par des animateurs BAFA. Alors aujourd'hui, il existe la spécificité, l'approfondissement BAFA lié au handicap. Mais nous, nos animateurs sont des animateurs BAFA. Après, voilà, ils participent à des journées comme celle-ci. Ils ont une sensibilité particulière au handicap. Mais voilà, on reste sur du loisir.
Alors c'est un des groupes qui se constitue parce que ces adolescents deviennent adultes, donc ne fréquentent plus ensuite le centre social. Ces groupes-là, où on part d'une personne, où on rassemble ensuite, comment on parle de cette action-là. Et dans ces 25 ans qui viennent de s'écouler, comment ce message-là est perçu. Et puis est-ce que c'est la spécificité du centre social Val-Benoît ? Est-ce que vous travaillez avec des instituts spécialisés pour nous aussi, on a des alternatives en discussion directe aussi avec les parents.
Oui, on travaille avec les instituts spécialisés. Après, on se rend compte qu'on est très peu connus. Les jeunes arrivent chez nous en général autour de 15-16 ans, alors qu'on commence à les accueillir à partir de 12 ans. Mais voilà, on est très mal connus, je pense, encore. C'est souvent le bouche à oreille quand même qui fait que les jeunes arrivent chez nous, parce qu'ils ont un copain qui est scolarisé au même endroit, qui est venu, ou l'éduc, si on a des liens particuliers avec des éducs, les éducs vont orienter chez nous pour du loisir. Mais voilà, ça reste encore, on est dans un creux plutôt aujourd'hui. Voilà, on n'est pas encore suffisamment connus, je pense, notamment pour les plus jeunes.
Quand on imagine le terme vivre ensemble, mais vivre ensemble, c'est-à-dire partager des moments communs dans tous ces jeunes-là qui fréquentent le centre social, comment ils se représentent ces moments communs? Est-ce que ce sont des activités aussi qui sont partagées? Est-ce que ce groupe aussi désire, pourquoi pas, se retrouver dans ce propre groupe pour des activités particulières? Voilà, comment s'organise la vie autour de cette spécificité du centre social Val-Benoît?
Alors c'est un petit peu des deux. Déjà, l'accueil se fait au centre social. Donc pour les familles et pour les jeunes, eh ben, c'est un endroit, c'est une structure d'éducation populaire traditionnelle. On n'est pas du tout dans le monde de l'éducation spécialisée. Et les jeunes donc, sont dans un groupe spécifique. Ils ont des temps, ils ont la plupart du temps des temps pour eux. Mais parfois, il y a des journées partagées avec d'autres centres de loisirs. Il y a un gros travail avec le secteur jeune de la Rivière. Et après, il y a des temps partagés avec tous les autres publics du centre social, que ce soit les enfants du centre de loisirs, les adultes qui fréquentent le centre. Et puis pour les familles, c'est un accès direct à toutes les activités de droit commun du centre social.
Alors, on va continuer notre petit tour de table pour ensuite parler de sujets qui vont concerner un peu toutes les structures représentées ici et peut-être avoir les regards de Julia et de Jennifer sur ces actions-là. On va parler donc du centre social de la Livate à Rouen avec Arnaud Declerieux, référent jeunesse, projet qui s'appelle Andy Livate. On fera aussi ce parallèle-là avec Audrey Grébaba du Parc de Montaut qui... De fait aussi, accueille ces enfants en situation de handicap et puis essaye de mettre en place un certain nombre de choses. Alors pour Juan, pour Andy Livate, qu'est-ce que c'est? Donc la Livate, c'est le centre social, Andy Livate.
Tout à fait. Qu'est-ce que l'Andy Livate? Le projet en fait est né pendant le Covid. On est animateur et quand on n'a pas de public en face de nous, on continue quand même à réfléchir. Donc voilà, le Covid nous a amené en fait à cette réflexion. Sur comment pouvoir accueillir du coup l'ensemble d'enfants porteurs de handicap. On sait que sur notre secteur, on a l'école de Mattel qui a deux classes CLIS. Alors Ulysse, CLIS, les noms changent assez régulièrement. Donc on a travaillé avec l'école. On a travaillé aussi sur la petite enfance. Et du coup, on a voulu pouvoir inclure et accueillir justement différents enfants. Avec une personne spécifique en fait à l'accueil de ces enfants dans l'inclusion au sein des groupes de notre accueil de loisirs, mais aussi de notre halte-garderie. On avait eu aussi justement des demandes via la PMI avec qui on travaille, alors mes collègues de la petite enfance travaillent. On avait eu des demandes et du coup voilà, on a décidé du coup d'embaucher quelqu'un en fait. Alors je ne veux pas plus aller loin, parce qu'on a démarré en fait par un service civique, et je sais qu'il y a un atelier cet après-midi sur le service civique, donc je ne vais peut-être pas du coup plus m'engager là-dessus. Mais voilà, du coup on avait une personne spécifique pour l'accueil de ces enfants au sein de notre centre. Effectivement, c'est vrai que tu l'as très bien fait remarquer, l'accueil de loisirs, ça reste des animateurs BAFA, qui n'ont pas forcément le diplôme, qui n'ont pas forcément les compétences, les qualités. C'est un travail. Donc on a un approfondissement handicap, mais voilà, il manque quand même du coup de travail là-dessus.
Peut-être, on va en parler cet après-midi sur ces services civiques, mais c'est peut-être important. On parle de moyens humains, donc là c'est quand même la volonté de consacrer une personne à ça.
Complètement, parce que c'est, on revient au nerf de la guerre en fait. Il y a un côté financier en fait, d'embaucher quelqu'un pour une personne par demi-journée. Alors on a plusieurs enfants sur chaque demi-journée, mais voilà. Et le service civique nous a semblé avec notre direction et nos collègues en fait, le dispositif, c'est un engagement. Ça porte bien son nom, le service civique. C'est un engagement avec derrière vraiment tout un projet sur plusieurs mois, donc qui nous permet. Nous, ce qui nous a permis déjà sur l'année, c'est de travailler le projet avec cette personne, et de pouvoir accueillir justement tous ces enfants. Le travail à côté qui se fait, c'est que à la différence. Alors Julia, j'ai adoré ta diapositive sur l'ensemble des partenaires. Moi, quand je vois, du coup, quand je suis avec les parents, ils ont des plannings de ministres, ces enfants, en fait. C'est exactement ça. Ils ont des plannings de ministres et il manque justement ce plaisir au milieu, en fait. Donc, on s'est adapté. On a tout un travail autour du planning. On souhaite accueillir plusieurs enfants, donc 2-3 demi-journées par période de vacances, pour qu'un maximum puisse être accueilli. Mais c'est tout un travail, justement, de planning à réaliser avec eux, bah, selon, en fait, le temps qu'ils peuvent avoir. On a des réglementations au sein de l'accueil de loisirs avec un accueil à 7h15, 9h. Eux, non. Ils doivent peut-être arriver à la suite de perfusion, à la suite. Donc, il faut qu'à 14h30, 15h, au moment où nos animateurs sont en animation, ils puissent être accueillis et inclus au sein du groupe. Donc, c'est tout ce travail aussi qui est à faire, en fait, et que nos directrices d'accueil de loisirs ou animateurs n'ont pas forcément le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce dispositif en place, justement, pour simplifier l'accueil dans nos structures.
Alors, Audrey, au niveau de l'association du parc de Montaut, un peu à la star du centre social de Valbenoît, c'est un accueil qui a évolué depuis des années, au fil des ans, avec, je vais utiliser ce terme-là, mais c'est un faux terme, une spécialisation entre guillemets, où vous êtes un peu fléché, on dit, tiens, le parc de Montaut est aguerri aussi, accueil, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place ?
Alors en fait, ça a commencé en 2018 à partir de l'accueil d'un service civique, donc avec cette mission inclusion en partenariat avec le pôle ressources, où là en fait on a été aussi sollicité par une IME, donc là c'était l'IME de Parc Révolier. Donc l'idée c'était de faire rencontrer ces deux publics à travers simplement des animations lambda. Et au fil du temps, on a développé cet objectif-là avec d'autres IME, toujours en étant accompagnés par Marielle et Sandrine du pôle ressources. Même si les services civiques avaient cette mission d'inclusion, l'idée c'était pas de qui porte tout et qui porte tout ça en fait seul. Donc en fait toute l'équipe de l'animation a été sensibilisée, a eu des temps de formation aussi autour de ces questions-là. Et après, l'idée aussi de pouvoir mieux accueillir ce public, c'est aussi d'être accompagné par des professionnels. Parce que mine de rien, même si on a des temps de sensibilisation, de formation, on n'est pas professionnel de l'éducation spécialisée, mais comme disaient tout à l'heure les intervenantes plutôt du loisir. Et du coup, voilà, on continue ce projet-là, ces objectifs. Et l'idée, c'est que ces structures donc l'IME accompagne des enfants au sein de nos centres de loisirs, donc qui participent aussi avec ces jeunes-là ou ces enfants sur ces temps d'animation. Et donc l'idée après, c'est que les familles puissent se saisir aussi de cette expérience et d'occasion pour pouvoir inscrire leurs propres enfants.
Alors, ces relations avec l'IME en question, est-ce que ce sont des relations actées, officielles ? Est-ce que ce sont des partenariats ou des relations simplement de connaissances professionnelles avec un projet qui est mis en place ? Voilà. Est-ce que ça existe dans la ligne directrice de votre structure ?
Dans le temps, elle va exister dans notre projet éducatif. En tout cas, l'objectif d'inclusion, etc., existe déjà. Mais ce partenariat avec ces professionnels seront inscrits aussi dans notre projet éducatif, en sachant qu'il n'y a pas que des temps d'échange sur nos pratiques. Il y a aussi tout un travail d'accompagnement, de mise en place aussi au sein de la structure, parce que mine de rien, on se pose toujours la question, est-ce que nos structures sont adaptées pour accueillir les enfants en situation de handicap. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail à faire et on va le poursuivre avec d'autres partenariats.
Alors vous évoquiez les relations avec les parents, que les parents viennent inscrire leurs enfants directement. Les parents, il en est question avec cette initiative Assurer le Comptel au centre social Christine Brossier, avec ces moments partagés entre parents, ces discussions mises en place. Alors Laetitia Charrier, qu'est-ce que c'est ? D'où est venue la construction de ces rencontres entre parents qui ont des enfants en situation de handicap et qui se retrouvent ensemble à discuter.
Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, donc je suis Laetitia Charrier, je suis référente famille pour le centre social de Suril-Comtal Et donc d'où est venue l'idée de lancer un accompagnement et plus précisément un collectif de parents ayant des enfants porteurs de handicap, spécifiquement des troubles du neurodéveloppement. Eh bien, c'est venu juste après le Covid, la période post-Covid, où on, avec l'équipe, avec les collègues, donc du pôle ado et du pôle enfance, on a constaté qu'on avait de plus en plus de mal et, enfin voilà, qu'on avait besoin de se former pour accueillir au mieux des enfants qui avaient des troubles suspectés ou détectés. Et moi, du côté parentalité, je me rendais compte que j'avais de plus en plus de familles qui venaient avec des situations d'épuisement, de burn-out, avec les confinements répétitifs, c'était de plus en plus difficile. Et donc, on a organisé une première soirée en novembre 2022 pour permettre justement aux familles de venir mieux comprendre ce que sont les troubles du neurodéveloppement et également de les permettre d'être mieux orientées, donc qui sont les structures d'appui sur le territoire. Et donc voilà, cette soirée a eu lieu fin 2022 et il faut dire que sur les conférences parentalité, habituellement on a quoi 10-15 parents et là tout le centre social était rempli, il y avait 80 personnes qui étaient présentes, autant de professionnels que de familles. Alors les professionnels, des animateurs, des instituteurs, des éducateurs et au niveau des familles, des familles suricoises et des familles des alentours. Et voilà. Et à l'issue de cette soirée, on s'est dit, on peut pas en rester là. Il faut absolument qu'il y ait un deuxième acte parce que c'était un premier appui, mais il fallait continuer parce qu'on sentait bien que c'était encore très compliqué pour certains.
Alors c'est un projet relativement récent. Qu'est-ce qu'on fait de ces discussions-là? Où est-ce que ça va? Est-ce que ça descend ensuite dans le centre social? Est-ce que on parle d'entraide? Est-ce que c'est un lieu ressource entre guillemets plutôt local? Avec des référents qui pourraient être d'autres parents pour répondre à des questions. Qu'est-ce que vous faites du contenu de ces discussions ?
Eh bien, justement, voilà. Donc, ces discussions, on est un peu allé les chercher aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur tout le premier semestre de l'année dernière, on a recontacté les familles une à une. On a organisé des rendez-vous individuels, des rencontres entre parents pour aller au-delà de la conférence et vraiment essayer d'identifier les besoins de cette famille, de ces familles individuellement. Et également, il y a eu tout un travail de mise en lien de ces familles. Donc on s'est retrouvés sur plusieurs temps de rencontres et au fil des mois, on a constitué un collectif qui a pu préciser ses besoins et à partir de là, on s'est dit qu'on allait construire un accompagnement sur mesure, adapté à toutes les contraintes donc qui ont été relevées par mes collègues, c'est-à-dire des parents qui passent leur temps chez les médecins, chez les spécialistes, qui ont des emplois du temps surchargés et voilà, donc on a constitué ce collectif en partant vraiment des besoins repérés auprès de ces familles.
Alors, est-ce que tous les enfants de ces parents-là fréquentent votre centre social ?
Une majorité, effectivement. Donc, c'est aussi la richesse de ce projet, c'est que ça permet vraiment d'échanger avec les collègues, donc du pôle ado, du pôle enfance. Et moi, j'ai plutôt les retours des parents et de voir comment, au niveau du centre social, on peut optimiser, améliorer aussi, être un accueil encore plus inclusif. Qui tiennent compte à la fois des difficultés, des problématiques des enfants et puis aussi qui puissent être un vrai lieu ressource pour les parents.
Alors si l'on discute tous ensemble maintenant sur cette relation que chacun peut avoir entre parents, entre responsables, animateurs, entre enfants, comment se font les liens ? Est-ce que il y a des discussions particulières avec les parents ? Est-ce que vous mettez en place des choses rapport à finalement ce qu'ils pourraient attendre pour peut-être les rassurer en leur disant que leurs enfants se sentiront bien dans cet espace-là. Expliquez-nous un peu ces rapports entre les trois entités, le centre, les enfants et les parents. Qu'est-ce que vous avez mis en place, peut-être Jeanne, avec cette expérience un peu plus longue?
Nous, en fait, la référente enfance-jeunesse, elle reçoit d'abord la famille et le jeune. Mais comme on peut faire avec tout le monde pour les inscriptions, le rendez-vous est peut-être un tout petit peu plus long parce que on va parler des spécificités du jeune. Voilà, et après, on accueille les gens, enfin voilà, comme tout le monde, et en prenant en compte quand même les spécificités du jeune et peut-être le rythme, les petits trucs à savoir si y a un moment où le jeune il est pas bien. Voilà comment les parents, ce sont eux qui le connaissent le mieux. Donc comment ils ont l'habitude de faire pour que nous on soit pas mis en difficulté derrière et puis pour que le jeune il soit accueilli le mieux possible et qu'il soit bien dans le groupe.
Et puis la mise en place aussi d'outils de mâles qu'on va découvrir tout à l'heure qui aident aussi à l'accompagnement au quotidien avec Marielle, elle m'expliquait d'une sorte de petite tente où l'enfant qui se sentirait pas très bien à un moment donné ne doit pas sortir de la salle mais peut rester dans la salle dans un espace qui lui est dédié mais il est toujours avec les autres. Ce genre d'outils, c'est important aussi à utiliser.
Alors nous au parc quand on accueille des enfants aussi en situation de handicap, donc comme pour toute famille, on reçoit la famille avec l'enfant, pareil on regarde par rapport aux besoins. Moi par contre c'est souvent moi qui fais ces temps-là de réunion, de rencontre. Je suis transparente avec les familles en leur expliquant qui nous sommes, notre fonctionnement, nos capacités, nos limites, le matériel que nous n'avons pas, parce que c'est une réalité aussi. On fait un tour de la structure pour qu'ils puissent voir aussi l'espace où va évoluer leur enfant. Et souvent, on commence par des petits temps. On les inscrit pas comme ça tout de suite, sur tous les jours, etc. Il y a des petits temps où voilà, on va réajuster, à s'adapter. Et quand on n'y arrive pas, et ben on n'y arrive pas et on est honnête avec la famille et un temps de discussion avec eux. Donc voilà.
Alors, il faut être honnête avec la famille, il faut être aussi honnête avec tout le public professionnel, ce sont vos confrères. La réalité existe dans les moyens financiers, humains, mis en place. Pourtant, vos structures s'organisent, cherchent aussi à accueillir tout le monde, parce que c'est le principe-là. Comment vous vous retrouvez face à finalement ces moyens financiers peu élevés, à ces réponses souvent humaines sur des questions où vous avez besoin de quelqu'un parce que voilà la demande est plus grande. Voilà, comment au quotidien on fait avec entre guillemets de temps en temps le bricolage.
Alors comment on fait on sollicite le pôle ressources pour être accompagné aussi sur ces questions-là. On fait avec les moyens que nous avons. Donc en termes de matériel, ça va être du petit matériel. Un exemple tout bête, quand l'équipe d'animation est allée visiter les locaux de l'IME Chantelise, donc c'est nos nouveaux partenaires, on a pu voir une salle sensorielle qui était adaptée pour les jeunes en situation de handicap, mais qu'en fait, au final, par exemple, on se dit que c'est bien aussi pour nous, en tant qu'adultes, en tant que jeunes, etc., d'avoir ces espaces-là où on peut temporiser un peu notre excitation. Du coup, par exemple, c'est bête, moi je vais me dire, je vais à l'Action, je vais aller acheter du petit matériel voilà, pour aménager cet espace-là. Après, quand c'est du gros matériel, j'ai envie de dire, je laisse la place à mon co-directeur, hein. C'est une de ses missions, qui va aller voilà, solliciter les institutions.
Jeanne.
Moi, j'ai bien entendu ce matin que la CAF allait être attentive. et du coup, je pense qu'on va pas traîner à faire une demande pour investir au niveau du matériel, parce que c'est vrai qu'on fait avec nos petits moyens. Et voilà. Si je peux rajouter aussi, on galère aussi au niveau du recrutement des animateurs. Hein, ça, c'est un secret pour personne. Les animateurs sont très, 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 très rares. Et des animateurs qui ont cette sensibilité-là et qui sont en capacité, en tout cas chez nous, d'accueillir un groupe de jeunes en situation de handicap, eh ben, ça se trouve pas facilement. Voilà, donc on galère. Voilà. Les 5 euros, c'est très bien, mais on n'a pas les animateurs à mettre en face.
La question était pourquoi on ne trouve pas d'animateur. La réponse unanime, c'est effectivement la rémunération qui est le frein au recrutement et qui ne provoque pas l'envie, malheureusement.
Effectivement, oui, sur le recrutement d'animateurs, alors c'est pas que spécifique justement sur le handicap, hein, je crois que c'est général, c'est national, c'est dans toute structure, c'est le nerf de la guerre avant chaque vacances de recruter. Et après, effectivement, au centre social, pendant 2 ans, et ben du coup, je me retournais vers Marielle et Sandrine, où on utilisait toutes ces malles qu'on avait sur chaque période de vacances. Alors quand elles étaient disponibles, mais elles étaient, c'était plutôt cool. Nous, du côté de Charlieu, on pouvait les récupérer facilement. Voilà. Et là, du coup, effectivement, l'année dernière, on a monté un dossier avec la direction, un fonds public et territoire. Et là, depuis un mois maintenant, on a notre propre salle Snozelen qui est mise en place avec l'ensemble du matériel qui a démarré. Là, c'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on peut l'utiliser. Donc voilà. Donc c'est une réalité, il faut faire cette demande. Alors après, elle va être utilisée pour nos enfants porteurs de handicap, elle est utilisée aussi par notre halte garderie, et puis pour tous nos autres petits loups qu'on peut accueillir. Voilà, c'est aussi un moyen d'avoir une salle où l'enfant peut souffler, peut. Donc voilà, depuis 3 semaines qu'elle est mise en place, elle est énormément utilisée. On en est assez content, donc voilà, n'hésitez pas à faire la demande.
Voilà, ce sera aussi l'objet d'une discussion lors des ateliers. Laetitia Charrier, vous voulez rajouter quelque chose ?
Donc c'était par rapport au pôle ressources, par rapport à ce collectif de parents. Moi, je trouve qu'il y a une dimension super importante, c'est aussi cette dimension d'être aussi, se faire les porte-parole de tout ce qu'on repère au niveau de ces familles qui ont souvent la tête sous l'eau, qui ont plus trop d'énergie pour se battre parfois, et c'est, il y a vraiment une dimension de plaidoyer, de faire remonter aux institutions ce qui se vit en fait au sein de ces familles, et du coup de se rapprocher de Marielle, de Sandrine, de travailler ensemble sur un vrai plaidoyer et de faire en sorte que ça puisse bouger, parce que effectivement il faut des structures qui puissent accueillir les enfants dans les meilleures conditions, mais il faut aussi du soutien à la parentalité pour ces parents qui sont souvent dans des situations très fragiles. Donc voilà, nous on a pu bénéficier d'un financement Fonds National Parentalité pour 1 année pour pouvoir avoir un intervenant sur ce collectif de parents. Et voilà, on mise beaucoup sur l'intelligence collective, sur l'expertise des parents, sur la père aidance. Mais voilà, on espère pouvoir continuer dans ce sens et continuer à être accompagné.
Et j'imagine que lorsque vous dites que ces parents sont dans des situations très fragiles, le fait de voir que même les structures ne sont pas, entre guillemets, solides, pour faire référence à ce mot fragile, pour accueillir, ça peut être aussi apporter d'autres craintes et encore d'autres interrogations. On va en profiter d'avoir Jennifer et Julia qui sont intervenues tout à l'heure pour votre regard un peu extérieur, finalement, en ayant écouté ce qui s'est dit aujourd'hui avec ces exemples de professionnels de terrain qui sont là au quotidien, qui agissent pour le bien-être de tous, parce que c'est compliqué de devoir refuser l'accueil à un moment donné parce qu'on n'en a pas les moyens. Voilà, qu'est-ce que vous...
Ou parce qu'on se sent pas compétent. Juste pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, on voit bien comment la dimension environnementale elle est très importante, et quand on pense environnement, on pense aussi politique sociale, financeur, voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai travail, vous l'avez dit, hein, de plaidoyer, de lobby à faire, et aussi de faire remonter les difficultés que rencontrent ces familles, mais vos difficultés à vous, hein. On voit bien que transformer l'environnement, c'est dans un sens aussi très large, hein. Dans l'environnement, c'est pas seulement l'environnement autour de l'enfant ou autour de la famille, mais de manière très large. Et je trouve qu'en vous écoutant, on voyait bien aussi comment vous alternez dans les situations que vous rapportez, entre des logiques inclusives, des logiques plus médicales, voire d'autres types de logiques. Et on voit bien qu'on est obligé, c'est pas un jugement en fait, on est obligé de faire avec ça. Je pense que c'est important quand on peut les repérer et essayer de d'être toujours sur la logique inclusive, c'est-à-dire sur la logique qui essaye de transformer l'environnement. Voilà, bien sûr que je pense qu'il faut de la formation des professionnels, je pense qu'il faut tout ça. Ça serait quand même malvenu de ma part de dire l'inverse. Mais je pense que c'est pas parfois la question des moyens humains et aussi une manière de pas faire. Voilà. En dehors du recrutement, en dehors de tout ça, c'est aussi une manière de se cacher derrière quelque chose pour pas faire. Voilà. Donc attention.
Alors si on va sur Jean-François Chaussy, qui est le grand témoin de cette journée, qui était aussi l'auteur de cette loi qui date de février 2005 sur le handicap, une loi importante aujourd'hui quand on regarde depuis 2005 jusqu'à 2024, 20 ans, voilà, l'évolution est-elle palpable? Est-elle toujours encore en train d'être construite pour cette reconnaissance de tous en fait, et le droit de vivre dans la même société à chacun?
Je pense que effectivement il y a des progrès. On va pas se mentir et on va pas s'auto-flagérer tout le temps. Il y a des progrès. Moi, je travaille autour de la question de l'emploi, qui est rare quand ils deviennent grands. Et ben, du coup, faut que ils trouvent du travail. Et clairement, on est très loin. On est très très loin. Et on retrouve des logiques hein, du côté de la pathologie, de dire, mais moi, j'ai étudié la question de l'entretien d'embauche et des questions qui sont posées à l'entretien d'embauche aux personnes avec une pathologie qui se voit. C'est quoi? Du coup, j'ai droit, mais en fait, vous êtes sourde. Et ben, non, raté. Deuxième chance, et ça me vaudra une augmentation si vous trouvez. Et donc, en fait, on est sans cesse ramené à ça, partout où on va. On est sans cesse ramené à cette question médicale du soin, de la rééducation. Et donc, c'est très compliqué de trouver des lieux safe. On est perçu, on est véritablement reconnu. Moi, j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Axel Honneth, qui a travaillé sur un sentiment de reconnaissance et d'être reconnu comme une personne dans son entièreté, la plus totale. Et je donne un exemple très court. J'essaye de faire court. Mais pour vous donner, parce que je pense qu'on est vraiment sur ça, sur la question des loisirs aussi. Il y a longtemps, je suis allée sur la proposition d'un de mes amis faire une retraite dans un monastère. Dans la Loire, en plus. Très bien, machin, super, on y va. Le soir, Adrien dit, on mange avec un des frères, on fait la vaisselle et on va se coucher. Samedi soir au monastère, grosse ambiance. Donc, on mange, je prends mon assiette et je vais dans l'immense cuisine et je me pose un évier. Et là, je vois arriver les 40 assiettes des autres frères. Il dit non. Bien gentil, mais non. Donc, je vais voir le prêtre qui s'en occupe et je dis, j'avoue, je joue la carte du handicap. En arrivant en boitant un peu plus, une soudaine poussée de spasme. Et donc, j'ai dit, je suis vraiment désolée. En fait, mon handicap, ça crée des spasmes. J'ai pas menti. C'est vrai. Pas menti dans un monastère. Ça crée des spasmes et des gestes involontaires. Et donc, j'ai très peur de casser vos assiettes. Et ça m'ennuierait parce que vous m'invitez. Et donc, je vais pas faire la vaisselle, je suis bien désolée, je vais aller me coucher. Et lui m'a dit, retournez-vous et dites-moi ce que vous voyez devant vous. Je me retourne, il y avait une table avec un tas de plats à essuyer, en inox et en plastique. Et il me dit ça, au pire, si ça tombe, ça fera juste du bruit. Bonne soirée. Et donc, c'est pour vous dire que ça, c'est très rare. C'est très rare quand la carte du handicap ne passe pas. Et pourtant, on est doué. Enfin, je veux dire, des années de répétition. Mais c'est très rare quand, comme là, on n'est pas réduit à cette question-là. On est en mode, oui, et so what? Oui, tu casses des trucs, on va te donner des trucs qui cassent pas. C'est quoi et donc aménagement d'un environnement, et ça vient nourrir la construction identitaire dans la personne en disant oui, autant vous dire, j'étais très énervée en essuyant ces trucs, en disant quand même il est gonflé, et mais en même temps la démarche inclusive, on est vraiment dans ça, dans ok, il y a des limites, ok, mais il y a plein, il y a un champ de possibles énorme et qui va être à creuser avec la personne elle-même. Donc je pense que l'entrée des loisirs, de pas être réduit à cette question de la pathologie du médical, c'est vraiment un endroit possible hyper précieux pour découvrir plein d'autres capacités, compétences, capacités. Et c'est à cet endroit-là que vous êtes précieux, parce que vous, vous n'avez pas ce filtre. Enfin, je suis d'accord pour les formations. Ça dépend quelle formation. Et ça dépend ce que vous allez chercher dans ces formations. Parce que il y a plein de formations qui vont vous dire tout ce que les personnes ne peuvent pas faire. Si elle est petite, elle ne pourra pas faire. Mais en fait, vous allez louper la rencontre et avoir ce filtre handicap qui, ce que les parents et les enfants viennent chercher auprès de vous, c'est justement pas ça. C'est justement pas la question du handicap, c'est la question du loisir. Et donc, il faut que vous restiez sur le loisir. Et ça, je pense que c'est véritablement important.
Juste, mais parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et du coup, je trouve aussi que... moi, je vais reprendre le point de vue famille, hein, parce que je suis aussi intéressée par ce travail-là avec les familles. Mais du coup, on voit bien, et j'imagine que vous le faites, en tout cas, la manière dont vous présentez, c'est vraiment très intéressant. Mais on voit bien qu'on peut entrer en demandant à des parents, c'est quoi le handicap de votre enfant. Donc là, on entre par une dimension médicale. Mais on peut aussi entrer en disant, mais qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Quelles sont ses difficultés? Et bien sûr qu'on va pas... Et puis, on peut faire retour à des parents de « mais votre enfant, il sait faire ça, c'est super, ça fonctionne ». C'est-à-dire, on peut aussi alimenter, quand on est professionnel de loisirs, la compréhension des capacités de son enfant par les parents. Voilà. Vous avez vraiment un rôle essentiel à jouer.
On leur a proposé des mini-formations, notamment avec nos partenaires, où on a l'ergothérapeute, on a le psychologue du DAI, on a eu des mamans d'autisme apprendre autrement qui sont venues à l'espace jeunesse, qui ont expliquer comment ce qu'elle vivait, qu'est-ce qui pourrait se passer avec les personnes en situation de handicap, avec les jeunes en situation de handicap. Et du coup, on a intéressé nos jeunes qui l'étaient et on les a un petit peu formés à ça. On a commencé à accueillir des personnes en situation de handicap, des jeunes qui venaient avec leurs éducateurs. On disait que sur chaque semaine de vacances scolaires, un éducateur venait avec 4-5 jeunes et passait 2-3 jours avec nous. Et on a fait un truc, c'est qu'on a banalisé nos lundis matins sur quelque chose qui s'appelait un brunch, on va dire. Et à chaque fois, on avait un professionnel qui venait le lundi matin boire un café, on va dire, et manger avec nos jeunes et expliquer un petit peu, quand ils allaient venir sur la semaine, qu'est-ce qui allait se passer, quel jeune allait venir, qu'est-ce qu'on pouvait rencontrer comme situation de handicap, comment on pouvait réagir, qu'est-ce qui pouvait se passer. Donc vraiment remettre les jeunes au cœur en disant, bah, vous êtes presque des professionnels aussi et on va accueillir ensemble. Donc on a mis ça en place, ça a commencé à faire venir un petit peu le public. On a fini d'adapter un petit peu la structure, on a mis un coin calme, on a acheté des casques anti-bruit, on a essayé de mettre en place des outils, notamment avec Marielle aussi qui nous a pas mal aidé là-dessus.
Il faut savoir que la mission handicap elle existe depuis 2015, donc quotidiennement ils sont sollicités pour accompagner des situations, des professionnels. Donc en fait, on a aujourd'hui une lecture assez fine quand même de ce qui existe sur le territoire et ça nous a paru assez logique de assez rapidement d'assembler un petit pool d'acteurs sur le terrain qui, pour certains, avaient depuis parfois très longtemps, puis parfois depuis tout récemment, organisé un certain nombre d'actions qui nous paraissaient pertinentes. Donc en fait, à travers le fait de les réunir, très rapidement est sortie déjà l'idée des tables rondes, qui peut proposer quoi, qui peut intervenir sur les ateliers. Donc en fait, c'est vraiment, je dirais, une connaissance très fine du terrain par le fait d'accompagner au quotidien depuis 2015.
Aujourd'hui, quand on parle de l'accueil d'enfants en situation de handicap, quelles sont les premières barrières ?
Ouais, les barrières, les freins qu'on se met tous parce que, comme on l'a vu dans la journée, on est tous pétris de représentations par notre parcours personnel. Donc, on soit du côté des professionnels, du côté des familles, du côté des enfants ou autres, on a tous une représentation de l'autre qui fait qu'on peut penser que soit on n'a pas sa place, soit un tel n'a pas sa place, et qu'en fait ils discutent, il suffit parfois de rentrer en discussion, puis de se rappeler que pour ce qui nous concerne nous, on est des acteurs professionnels du loisir et qu'à ce titre-là, on a quelque chose à proposer en fait, et qu'on a ces capacités d'adaptation qui fait qu'on peut tout à fait avoir notre place dans le champ de l'accueil de l'enfant en situation de handicap, du moment qu'on essaye de bien rester dans notre place qui est la nôtre, à savoir pour le coup, je le répète, les acteurs du loisir dans le champ de l'éducation populaire.
Quand on parle de sa place que l'on doit respecter, c'est aussi la place de l'enfant et celle des parents. Aujourd'hui, les parents peuvent se sentir un peu démunis face à des situations complexes et se dire « Tiens, ce centre de loisirs n'est pas ouvert à mon enfant. » Qu'est-ce qu'on répondrait à ça ?
Bon, il est vrai que la première réponse, ça peut être un rappel à la loi, qui est qu'aujourd'hui, on se doit d'accueillir tout le monde. C'est effectivement ce que nous indique la loi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est la logique de dire d'accueillir bien. C'est là qu'on place des enjeux de qualité. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans la question de l'accueil de loisirs, on se place dans le milieu ordinaire et qu'il y a tout un intérêt à essayer de travailler à comment cet environnement peut aussi s'adapter pour accueillir le plus grand nombre dans le respect des singularités de chacun, bien sûr. Donc, ça veut dire s'adapter aux besoins, à être au plus près aussi de ce que pourrait nous dire la famille. Mais on sait aussi, en tout cas, on l'a vécu, nous, depuis 2015, qu'on accompagne des structures, que chaque fois qu'on fait un pas pour accompagner plus spécifiquement un enfant, en fait, on fait un pas pour le plus grand nombre, parce que c'est une qualité d'accueil qui augmente pour tout le monde. Et on reste aussi persuadé par ailleurs que nos lieux de centres de loisirs sont des lieux aussi où doivent se vivre la mixité et la rencontre. Donc on a tout intérêt à favoriser ça, et c'est tout l'enjeu du travail du pôle ressources aujourd'hui.
Alors Jean-François Chaussy, vous êtes le grand témoin de cette journée, et puis ancien député de la Loire de 1993 à 2007, et notamment auteur de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la loi sur le handicap du 11 février 2005. On parle d'une loi qui a 20 ans, que vous avez débattue, que vous avez proposée, qui a été adoptée. 2024, où en est-on de votre point de vue, hors politique, simplement citoyen ?
Alors, c'est une loi qui a porté beaucoup dans le monde du handicap, mais qui se heurte maintenant à un détricotage formidable. Par manque de moyens, paraît-il. Les moyens financiers sont pas au rendez-vous. Si c'était dans ce seul créneau, on arriverait peut-être à s'en expliquer et à s'en contenter, mais c'est beaucoup plus large que ça. En tout cas, pour ce qui concerne l'accueil des personnes handicapées, les difficultés sont toujours devant nous. Pour ce qui concerne les prestations de compensation du handicap, les difficultés de mise en place sont aussi très compliquées. Mais cette loi a permis justement de s'intéresser à la personne handicapée, à la personne humaine. C'est une loi sur l'égalité des chances et des droits, sur la citoyenneté de la personne handicapée, ce qui reviendrait à dire qu'avant la loi, les personnes handicapées n'étaient pas considérées comme des citoyens, puisqu'il a fallu faire une loi pour ça. Alors voilà, c'est une avancée pour la personne handicapée. La loi de 75 était déjà une avancée en ce qui concerne l'accueil et les structures des personnes pour les personnes handicapées. Mais ce que je voudrais rappeler, puisque vous m'en donnez l'occasion finalement, c'est que toutes les lois qui concernent le handicap ont toutes à l'origine un seul homme, qui s'appelle Jacques Chirac. La loi de 1975 sur les structures et sur l'accueil, c'est Jacques Chirac. La loi de 87 sur l'emploi des personnes handicapées, c'est Jacques Chirac. La loi de 96 qui reconnaît l'autisme comme un handicap, c'est moi qui l'ai présenté, mais c'était Jacques Chirac qui était Premier ministre. Qui était même président de la République, pardon, 96. La loi l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de 2005, c'est encore Jacques Chirac. Ça veut dire qu'il y a eu une impulsion politique très forte, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris ça à cœur et à corps. Depuis cette époque, il n'y a pas eu grandes avancées. On vit sur un héritage. Mais il ne faudrait pas qu'on laisse périr cet héritage-là, parce qu'il y a une attente encore assez forte, et même très forte, des personnes concernées.
Aujourd'hui, on est dans un contexte où l'on rassemble des professionnels de l'accueil de loisirs, affiliés au Franca 42 ou encore au comité UFCV de la Loire. Ce sont donc une multitude de structures représentées par des personnes, animateurs, dirigeants de ces structures-là, administrateurs, qui se mobilisent et qui aussi... s'apportent entre eux des conseils, des échanges de pratiques sur l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Quel sentiment vous avez, vous, en tant que grand témoin aujourd'hui, sur une journée telle que celle-ci ?
Alors, elle est très très utile, parce que c'est un échange, justement, vous l'avez dit vous-même, entre des personnes qui croyaient savoir, mais qui apprennent encore des choses, et c'était important de le réaliser. Alors, j'ai même compris, en écoutant les uns et les autres, que ça appelait d'autres manifestations du même style, parce qu'il y a une attente des personnels professionnels, comme il y a une attente des familles, on le disait tout à l'heure. Donc, c'est une avancée formidable d'avoir fait cette manifestation aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit bien, la salle est comble, ce qui veut dire que ça correspond à une attente et à un besoin.
Vous participez à cette journée-là en tant qu'ancien député de cette circonscription qu'on a eu Jennifer Fournier. Au moment où elle validait sa thèse, vous étiez présent. Cette question du handicap, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime au quotidien ?
Alors, je vais refaire un petit point d'histoire, mais très vite. J'ai été interpellé par le handicap en 1993, lorsque j'étais député. Tout nouveau député. J'étais interpellé par une famille qui était accompagnée de leur petite fille, qui s'appelle Léa, et qui venait me dire, voilà, notre fille est autiste. Et... il faut faire quelque chose. Je dis, mais attendez, vous vous trompez d'adresse. Moi, je suis pas pédopsychiatre, je suis pas pédiatre, j'ai rien à voir avec votre fille autiste. Si, monsieur, vous êtes député, pour que notre fille soit accompagnée de la meilleure manière, eh bien, il faut changer la loi. Il faut faire une loi. Et je m'y suis attelé à cette loi. C'est une loi de 96, maintenant, qui reconnaît l'autisme comme un handicap et qui ouvre les portes du médico-social. Voilà mon premier pas dans l'autisme, voilà mon premier pas vers le handicap. Mais après, c'était facile à l'Assemblée nationale, comme personne ou très peu de députés se préoccupaient du handicap. Dans le groupe dans lequel je siégeais, qui était l'UDF à l'époque, quand on avait des dossiers qui concernaient le handicap, la réponse du président du groupe était de dire « c'est facile, nous on a un spécialiste du handicap, c'est Chaussy, on va lui donner le dossier ». Et je me suis donc, par cette obligation morale, intéressé à tout ce qui concerne le handicap, si bien qu'à un moment donné, on m'a mis comme rapporteur de la loi du 11 février 2005. Voilà, mon histoire, elle est simple, mais elle m'a accaparé beaucoup. Je regrette rien de tout ce qui s'est passé, absolument rien, mais elle m'a accaparé beaucoup, et je suis devenu, sans le vouloir, et même après tout sans le savoir, à l'Assemblée nationale en tout cas, spécialiste du handicap. En dehors de l'Assemblée nationale, je suis un débutant complet, parce que j'apprends tous les jours des choses nouvelles. Dans chaque occasion comme celle d'aujourd'hui, j'apprends je prends des idées nouvelles et j'apprends des choses nouvelles. Mais je vois une motivation, une mobilisation, et ça, c'est réjouissant.
On apprend des parents, des situations, des familles, des personnes qui ont accès aussi à vous rappeler, voilà, des personnes qui osent venir vous contacter. Il y en a plein d'autres qui n'ont pas aussi accès à des représentants politiques, des structures qui existent. On parlait tout à l'heure en toile de fond, la question du financement, de la formation, quand on est à un lieu d'éducation populaire pour accueillir des enfants en situation de handicap, c'est aussi un des leviers qu'il faut actionner.
Mon regard, c'est très simple, c'est direct. Moi, je suis pas pour la charité comme on l'exerçait avant dans l'ancien temps. Je suis pas pour la générosité comme on continue à l'exercer maintenant à travers les télétons, par exemple. Je suis pour la solidarité en ce qui concerne le handicap. C'est-à-dire que l'impôt de chacun, doit servir à la solidarité. Et que dans cet impôt-là, on doit pouvoir prélever tout ce qu'il faut pour la recherche, pour l'accueil, pour le service des personnes handicapées. On se cache derrière c'est très mobilisateur, le Téléthon par exemple, hein, pour ne parler que de ça, c'est très mobilisateur, mais je trouve qu'on est à côté de la plaque, parce que ce qui compte pour moi, dans cette affaire-là, c'est pas la générosité, c'est la solidarité, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. La générosité, c'est ceux qui peuvent donner qui donnent. La solidarité, c'est ceux qui payent des impôts, certes, mais là, c'est une obligation légale, humaine, obligatoire, contribuable. La solidarité pour, en ce qui concerne le fait de payer de l'impôt, ça c'est pas ni maintenant ni à moi de le dire, mais ce que je considère, c'est que l'État ne fait pas son travail de ce point de vue, parce qu'il utilise mal l'argent qui est récupéré par les impôts, il le redistribue pas dans le domaine de la solidarité concernant le handicap, il le redistribue pas suffisamment. On a même créé à un moment donné un impôt secondaire qui est passé inaperçu maintenant, qui était ce fameux lundi de Pentecôte, qui apportait de l'argent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. C'est indolore, aujourd'hui, tout le monde, quelque part, verse une minute de son temps de travail dans cette caisse-là, mais ça suffit pas. On devrait pouvoir activer cette façon de faire de la solidarité de façon plus large pour qu'on puisse avoir des structures d'accueil plus importantes. Aujourd'hui, c'est un exemple, mais ça sera le seul que je vais citer. Il y a entre 8 et 10 000 jeunes et moins jeunes autistes qui sont en Belgique parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution en France. Voilà. Ça pose une question. Ça pose une question. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment va-t-on faire pour rapatrier ces 8 ou 10 000 ? Parce que si on les rapatrie de Belgique, on ne saura pas où les mettre en France. Voilà.